إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on se réunit ce soir pour cette première conférence durant ce séminaire sur la famille musulmane. Comme cela a été annoncé, nous allons voir dans cette conférence quelques points concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son foyer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Et Allah vous a fait de vos maisons une habitation. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit dans l'explication de ce verset: Allah subhanahu wa ta'ala évoque ici la perfection de ses bienfaits sur son serviteur, du fait qu'il leur a accordé des maisons qui sont leurs habitations, dans lesquelles ils s'abritent, se mettent à l'abri des regards et profitent de différents bienfaits. On voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué l'habitation d'un point de vue moral et également d'un point de vue matériel. Et ce, car ce sont les deux bases sur lesquelles repose le foyer musulman. Toutefois, si l'on observe la situation actuelle, on voit que nombre de musulmans ont perdu leurs valeurs et n'ont plus de bons repères. En effet, nombre de musulmans perdent leur temps et gaspillent leur argent afin d'améliorer leurs habitations du point de vue matériel. Mais beaucoup d'entre eux négligent ce qui est plus important, qui est le côté moral ou le côté spirituel, et ceci est la cause de malheur et de tristesse dans beaucoup de foyers. Et ceci provient de l'absence d'équilibre entre ces deux points. D'un côté, ce qui est lié au matériel et aux affaires mondaines, et d'un autre côté, ce qui est lié à la morale et aux affaires religieuses. Et dans tout ceci, tu dois chercher à te conformer aux règles religieuses et légiférer dans ces sujets. Et en réalité, il est très facile pour nous de remédier à cela. Ce n'est pas une chose difficile. Au contraire, ceci est une chose très simple pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité. Toutefois, il y a besoin de ta part que tu sois véridique et que tu aies la ferme volonté de revenir à notre modèle et notre exemple qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans son noble livre: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Vous avez en effet dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit dans l'explication de ce verset: ce noble verset est un fondement immense quant au fait de prendre pour modèle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans ses paroles, dans ses actes et ses manières d'être. Médite sur ces trois points que l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a mentionnés ici. Dans ses paroles, dans ses actes et ses manières d'être. Le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne doit pas être restreint aux apparences. Aujourd'hui, nombre de musulmans, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, commencent à saisir l'importance du suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais malheureusement pour beaucoup d'entre eux, cette compréhension se restreint aux apparences. Ici il nous dit: ce verset est un fondement immense quant au fait de prendre pour modèle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans ses paroles, dans ses actes et dans ses manières d'être. Et les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, et d'autant plus les mères des croyants, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celles dont la véracité et l'honnêteté sont reconnues à l'unanimité des gens de l'islam, elles nous ont transmis des informations précieuses sur la manière d'être du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son foyer. Et il n'y a pas de doute que ce sujet est d'une grande importance. En effet, comme vous le savez, la famille musulmane, c'est la première pierre à l'édifice de la société. Il est donc indispensable pour nous de former et de fonder cette famille de manière saine et de manière droite et authentique. Et c'est pour cela que nous allons prendre connaissance, durant cette conférence, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son foyer. Et ce, afin de le suivre et de le prendre pour modèle. Et en faisant cela, nous formerons ainsi, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nos foyers selon la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'objectif ici, ce n'est pas simplement d'apprendre ces informations et d'en prendre connaissance. Mais l'objectif, c'est d'en prendre connaissance afin de les mettre en pratique et de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ces choses-là. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala a lié le bonheur des deux demeures, la demeure d'ici-bas et la demeure de l'au-delà, au suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et de la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala a lié le malheur des deux demeures, le malheur ici-bas et le malheur dans l'au-delà, à quoi? À l'opposition à la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont bien guidés. Et ils obtiennent la sérénité, la réussite et le bonheur ici-bas, ainsi que dans l'au-delà, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ceux qui s'opposent à la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils n'obtiennent que l'avilissement, la peur, l'égarement, l'abandon et le malheur ici-bas et dans l'au-delà. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit dans son célèbre livre Zad al-Ma'ad, si le bonheur du serviteur dans les deux demeures est lié à son suivi de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est alors obligatoire à toute personne sincère envers elle-même et qui souhaite sauver sa personne et souhaite aussi son bonheur de connaître de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa biographie ce qui lui permet de sortir du nombre des ignorants et de faire partie de ses suiveurs et de son groupe. Fin de citation de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. On va donc commencer par voir différents points concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En commençant tout d'abord par la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la fondation de sa maison et sa voix concernant la nourriture et la boisson. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith que la vaste demeure fait partie des fondements du bonheur. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, trois choses procurent le bonheur et trois choses sont source de malheur. Celles qui procurent le bonheur, ce sont la femme pieuse dont la vision te ravit et en qui tu as confiance quant à sa personne et tes biens. La monture docile qui te permet de rejoindre tes compagnons et la vaste demeure qui est bien équipée. Ensuite, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et celles qui sont source de malheur, ce sont la femme dont la vision te déplaît, celle qui délie sa langue sur toi et de laquelle tu n'es pas à l'abri quant à sa personne et tes biens. La monture lente qui te fatigue si tu la frappes et ne te permet pas de rejoindre tes compagnons si tu la délaisses, et la maison étroite et peu équipée. Et ce hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. On voit donc dans celui-ci que la vaste demeure fait partie des signes du bonheur. Toutefois, il est important de comprendre que ceci est relatif aux besoins de la personne. Aujourd'hui, si on médite sur la situation de beaucoup de musulmans, on voit que nombre d'entre eux se sont imposés des charges immenses dans la construction de maisons. Et tu les vois faire même des choses qui n'ont aucun intérêt si ce n'est les apparences. Ou pire encore, certains embellissent leur maison par vantardise ou pour se concurrencer les uns les autres. Et il n'y a pas de doute que ceci fait partie des choses blâmables. Il y a même certains parmi les musulmans qui se sont noyés de dettes afin de construire et d'embellir leur maison. Il est donc important pour nous de comprendre ce hadith à la lumière des autres textes qui nous sont rapportés à ce sujet, afin de comprendre en quoi consiste la demeure spacieuse à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion ici. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, a dit « J'entrais dans les maisons des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le califat de Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu et je touchais le plafond de ma main. » Et ce récit a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc vous voyez ici, ce noble savant, parmi les savants des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, qui nous décrit les maisons des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'il touchait le plafond de sa main. Cela veut dire que ce n'était pas des bâtisses élevées. Ce n'était pas de grandes bâtisses. Lorsque les appartements des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été introduits dans la mosquée, Saïd ibn al-Musayyab, rahimahullah ta'ala, a alors dit: Par Allah, j'aurais aimé qu'ils les laissent tels qu'ils étaient. Et ce, afin que les gens de Médine et ceux qui y viennent de tout horizon voient ce dont quoi s'est contenté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie. Il dit ensuite: Ceci pourrait entre autres amener les gens à renoncer à la course aux richesses et à la vantardise. Abu Umama, rahimahullah ta'ala, a dit ce jour-là, le jour où les appartements ont été introduits dans la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si seulement il les avait laissés et ne les avait pas détruits, afin que les gens se restreignent dans la construction et qu'ils voient ce qu'Allah a agréé pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les trésors de ce bas monde étaient entre ses mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait entre ses mains les trésors de ce bas monde. Malgré cela, ces maisons, les maisons de ses épouses, était telle que vous venez de l'entendre à travers ces récits. On voit donc la différence immense qu'il y a entre nous et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il se contentait de peu. Et il en est de même concernant sa nourriture et sa boisson sallallahu alayhi wa sallam. Notre mère Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, a dit: Depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, la famille de Mohammed ne s'est pas nourri de pain d'orge 3 jours consécutifs jusqu'à ce que meure le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Et dans une autre version, elle dit pas plus de 2 jours consécutifs. Elle dit aussi dans un autre hadith, également rapporté par muslim, il passait parfois un mois sans que nous n'allumions de feu et nos repas n'étaient que des dattes et de l'eau. Nu'man ibn Bashir, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: Omar, radiyallahu anhu, évoqua ce que les gens obtenirent de ce bas monde. Puis il dit: J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rester une journée à se courber sans même trouver ne serait-ce qu'une datte avariée pour remplir son ventre. Vous voyez à travers cela la vie qu'a menée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il ne lui accorde que le minimum des biens de ce bas monde. En effet, les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala ont rapporté d'après Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Allah, fais que la subsistance de la famille de Mohammed soit ce qui leur suffit. Allahu Akbar. Il ne demandait pas de posséder de nombreuses choses, comme c'est le cas de nombreux parmi nous aujourd'hui. On souhaite une grande maison, on souhaite beaucoup d'équipements dans cette maison, on souhaite une belle voiture, et ainsi de suite parmi les biens de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoque Allah pour qu'il ne lui accorde que ce qui lui suffit de ce bas monde. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle nous décrit sa maison en disant: Le lit sur lequel dormait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était fait d'une peau tannée et son rembourrage de fibres de palmier. Et elle dit aussi: Nous avions une natte que nous étendions la journée et sous laquelle nous nous couvrions la nuit. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait sur une natte qui laissa des traces sur son flanc. Nous lui dîmes alors: Ô messager d'Allah, nous autorises-tu à étendre en dessous de toi plus doux que cela? Et ce, par compassion envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et écoutez ce que leur a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'ai-je à faire de ce bas monde? Je ne suis vis-à-vis de ce bas monde qu'à l'exemple d'un cavalier qui a voyagé un jour de grande chaleur et a fait la sieste à l'ombre d'un arbre, puis est parti et l'a délaissé. Tel était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il possédait les trésors de ce bas monde entre ses mains. Malgré cela, sa demeure était telle que vous venez de l'entendre dans ses hadiths et ses récits. Malheureusement, aujourd'hui, la tentation des biens de ce bas monde a touché beaucoup de gens parmi les musulmans. au point que les gens, tu les vois même se concurrencer au sujet des assiettes et des verres. Qui aura les plus belles assiettes, qui aura les plus beaux verres, qui aura les plus beaux couverts, et ainsi de suite. Et tout ceci, ce sont des causes qui ont fait que nos cœurs se sont endurcis et qu'ils ont beaucoup divergé. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre cela. En effet, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais je crains que ce bas monde vous soit donné avec largesse, comme il fut donné à ceux qui vous ont précédé, et que vous vous concurrenciez à son sujet, comme ils l'ont fait, puis que vous périssiez comme ils périrent. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc une fois que tu sais cela, tu comprends donc qu'il est obligatoire pour nous de considérer ce bas monde à sa juste valeur. Ce bas monde, il est insignifiant. Ce qui nous importe, ici-bas, c'est de nous orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'obtenir son agrément et qu'il nous fasse entrer au paradis dans l'au-delà. Et si on ne réforme pas nos situations à ce sujet, alors nos cœurs, ils vont s'endurcir. Et on va perdre notre temps à quoi? À chercher à réunir des choses éphémères parmi les ornements de ce bas monde. Comme le font beaucoup de gens aujourd'hui. Ils passent leur journée du matin au soir à courir derrière le bien de ce bas monde. Et ils ne sont jamais rassasiés. Et le plus grave dans cela, c'est qu'ils recherchent à réunir le bien de ce bas monde au détriment de ce qui reste, et de ce qui perdure, et de ce qui t'accompagnera dans ta tombe, parmi les œuvres pieuses qui nous seront profitables au jour de la résurrection, par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Une fois que l'on a vu cela, que l'on a vu la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la fondation de sa maison, ainsi que les choses liées à son mobilier, à sa nourriture et sa boisson, il est important pour nous de savoir qu'est-ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette maison. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam occupait ses journées? La maison du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était une maison emplie de piété et d'adoration de toutes sortes. À l'exemple de la prière, du jeûne, de l'aumône, le commandement du bien, l'interdiction du mal, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture du Coran, et ainsi de suite, parmi les différentes formes d'adoration qu'il pratiquait, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incités à cela. Il nous a incités à multiplier les actes d'adoration dans nos maisons. D'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhumah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Accomplissez une partie de vos prières dans vos maisons et n'en faites pas des tombes. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Qu'est-ce que ce hadith signifie? Accomplissez une partie de vos prières dans vos maisons. Ce qui est visé ici par les prières, ce sont les prières surérogatoires en ce qui concerne les hommes. Car la prière obligatoire, il lui incombe de l'accomplir en groupe à la mosquée. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous incite à accomplir une partie de nos prières dans nos maisons, afin d'emplir ces maisons d'adoration, et que nos maisons ne soient pas comparables à des tombes, car il est interdit pour le musulman de prier dans les cimetières. Donc, on voit l'erreur que font certaines personnes qui accomplissent leurs prières surérogatoires de manière continuelle à la mosquée. Ils souhaitent accomplir des prières surérogatoires comme les rawatib ou la prière du witr. Il l'accomplit après sa prière obligatoire à la mosquée. Il rentre chez lui, il ne prie pas. Il te convient, mon frère, de réserver une part de tes prières que tu accomplis à ton domicile, te soumettant ainsi à cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enjoint d'accomplir une partie de nos prières dans nos maisons. Et on doit donc prendre pour modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les efforts qu'il prodiguait dans l'adoration. Al-Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu ta'ala anhu, il nous a décrit les efforts du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'adoration. Et il a dit, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait au point que ses pieds se fendillent. On lui dit alors: Mais Allah t'a certes pardonné tes péchés passés et futurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pardonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam ses péchés passés et futurs. Écoutez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait qu'Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Mais malgré cela, qu'est-ce qu'il fait? Il fait preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il prie de longues prières, au point que ses pieds se fendillent du fait de la longue station debout en prière. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait ainsi, alors que ses péchés étaient pardonnés, que dire de bon nombre d'entre nous qui sont noyés dans les péchés du matin au soir, et qui en plus de cela négligent les actes qui permettent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait avec humilité, tout en méditant sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Hibban, rahimahullah, a rapporté que Attara et Ubaydullah ibn Umayr sont allés voir Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et Ubaydullah a demandé à Aïcha de leur raconter la chose la plus étonnante qu'elle ait vue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Aïcha s'est mise à pleurer. Ensuite, elle a dit, il se leva une nuit pour prier et il me dit, ô Aïcha, laisse-moi adorer mon Seigneur. Je lui dis, par Allah, j'aime certes ta proximité, mais j'aime ce qui te plaît. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva, il se purifia, puis il pria. Elle dit ensuite, radiallahu ta'ala anha, il ne cessa de pleurer au point que se mouille sa poitrine. Puis il pleura encore et ne cessa de pleurer jusqu'à ce que le sol soit mouillé. Bilal, radiallahu ta'ala anhu, vint alors appeler à la prière de l'aube. Et lorsqu'il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurer, il lui dit, tu pleures alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Des versets sont certes descendus sur moi cette nuit. Malheur à celui qui les lit et ne les médite pas. Puis il récita les derniers versets de la sourate Ali Imran. Parmi les adorations dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait de nombreux efforts, il y a aussi le jeûne. Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a d'ailleurs décrit la grande importance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait à cette adoration. Elle a dit radiallahu ta'ala anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait jusqu'à ce que l'on se dise qu'ils ne rompent pas. C'est-à-dire tellement ils jeûnaient qu'ils avaient l'impression qu'ils jeûnaient constamment. Et ils rompaient jusqu'à ce que l'on se dise qu'ils ne jeûnent pas. Et je n'ai pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet en dehors du Ramadan. Et je ne l'ai pas vu jeûner plus que durant Sha'ban, le mois qui précède le mois de Ramadan. Et il en est de même pour l'aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens. Uqba ibn al-Harith, radiallahu ta'ala anhu, a dit, j'ai prié al-Asr avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il fit les salutations, c'est-à-dire les salutations de la prière, il se leva rapidement et entra chez l'une de ses épouses. Ensuite, il sortit et il vit sur le visage des gens qu'ils ont été surpris de son empressement. Il dit alors, lorsque j'étais en prière, je me suis souvenu d'un morceau d'or que nous avions à notre domicile. J'ai alors répugné qu'il passe la nuit chez nous. J'ai donc ordonné son partage. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Regardez par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est préoccupé. Il se souvient qu'il a un morceau d'or chez lui. Ceci le préoccupe durant sa prière, il fait les salutations et il s'empresse de rentrer chez lui pour que cet or soit partagé. Qu'il ne passe pas la nuit chez lui. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, si des biens de ce bas monde vont le perturber en prière, ce n'est pas pour s'empresser de s'en débarrasser. Mais malheureusement, c'est pour chercher un moyen de l'obtenir. Tu vois certaines personnes qui prient, qui font les salutations, puis qui s'empressent de sortir de la mosquée ou de retourner à des occupations mondaines pour rechercher les biens de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il s'empressait pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas garder ses biens. Il s'est empressé de les distribuer, de les partager en aumône. Et sa générosité, elle augmentait durant le mois de Ramadan. Comme le rapporte Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux des gens, et il était encore plus généreux durant le mois de Ramadan. On voit donc à travers ces textes que la maison du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était une maison emplie d'adoration, une maison emplie de rappels d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même donné l'exemple de la maison dans laquelle on évoque Allah et celle dans laquelle Allah n'est pas évoqué. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte l'imam muslim, rahimahullah, la maison dans laquelle Allah est évoqué et celle dans laquelle Allah n'est pas évoqué sont à l'exemple du vivant et du mort. La maison vivante, c'est laquelle? Celle où il y a de la vie. C'est celle où Allah est évoqué. C'est celle où on se prosterne pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Celle dans laquelle on lit le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celle dans laquelle on fait du dhikr, du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça la maison vivante. Et il n'y a pas de vie dans une maison dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas évoqué. Il est donc important de comprendre qu'une des clés de la réforme de nos foyers, c'est de remplir nos foyers de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. De multiplier les prières dans nos maisons, de multiplier la récitation du Coran, de multiplier les évocations, les invocations et autres parmi les formes d'adoration. Et ce, afin que nos foyers soient semblables à des jardins parmi les jardins du paradis et non pas à des abîmes parmi les abîmes de l'enfer, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Nos maisons, elles doivent donc être consacrées à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles ne doivent pas être consacrées aux futilités, ou encore au suivi d'émissions télévisées, au suivi des informations, ou alors aux jeux vidéo et autre chose parmi les interdits ou autres futilités. Où en sommes-nous aujourd'hui dans l'adoration dans nos maisons? Comparé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que chacun d'entre nous se pose sincèrement cette question. Et il se peut que ta réflexion sur ce sujet, ça soit la cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide vers le bien et le bonheur, ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Nombre de personnes aujourd'hui ont délaissé les obligations sans même parler des œuvres surérogatoires. Nombre de personnes aujourd'hui ont empli leur maison de péchés et de désobéissances. Wallahu al-musta'an. Il n'y a pas de doute que ce n'est pas ainsi que la personne va trouver le bonheur ici-bas. Donc, que chacun d'entre nous médite sur ce point et fasse un bilan avec lui-même, et il se peut que ceci soit une cause de sa réforme par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons maintenant voir comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des époux pour la meilleure des familles. D'après notre mère, la mère des croyants, Aïcha radiallahu ta'ala anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est le meilleur d'entre vous avec sa famille, et je suis le meilleur d'entre vous avec ma famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc un comportement exemplaire avec ses épouses, que ce soit en termes de bienfaisance et de bienveillance envers elles, mais également en termes de profit religieux et mondain. Et ce hadith nous indique que les gens sont de différents degrés dans le bien. Les gens ne sont pas tous égaux. Il y a différents degrés. Et le meilleur parmi les gens, c'est qui? C'est celui qui est le meilleur avec sa famille. Tu dois donc savoir que les membres de ta famille, ce sont les personnes les plus en droit de ton bon comportement et de ta bienfaisance. Si l'homme se comporte ainsi, il fait alors partie des meilleurs des gens. Et inversement, s'il ne se comporte pas ainsi, il est alors parmi les plus mauvais des gens, wallahu musta'an. Et nombre de personnes sont dans l'erreur à ce sujet. On voit certains hommes, lorsqu'ils rentrent auprès de leur famille, ils ont un mauvais comportement. Il a le visage rude, il ne sourit pas. Et lorsqu'il est dehors avec des gens de l'extérieur, tu le vois alors parfaire son comportement, être souriant, multiplier le bien et ainsi de suite. Il n'y a pas de doute que celui qui agit ainsi, il est certes privé de réussite et il a dévié du droit chemin à ce sujet. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez lui, il était au service de sa famille. Al-Aswad a demandé à Aïcha radiallahu ta'ala anha qu'est-ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison. Elle répondit radiallahu ta'ala anha, il était au service de sa famille et lorsque venait la prière, il sortait pour l'accomplir. Et elle a dit radiallahu ta'ala anha, il cousait son vêtement, réparait ses chaussures et faisait ce que font les hommes dans leur maison. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala a dit: l'homme est au service de son épouse dans les travaux simples, et il l'aide, d'après ce qu'a rapporté Aïcha radiallahu ta'ala anha, quant au fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était au service de sa famille et sortait à l'écoute de l'appel à la prière. Et méditez bien ce sur qui est rapporté dans le hadith que l'on a cité. Qu'est-ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il était au service de sa famille, il cousait son vêtement, il réparait ses chaussures et faisait ce que font les hommes dans leur maison. Et ceci nous indique que ce n'est pas tous travaux domestiques qui conviennent aux hommes, mais il y a des travaux qui conviennent plus à la femme et d'autres qui conviennent à l'homme, et l'homme se doit d'être au service de sa famille lorsqu'il est à son domicile. Regardez donc le comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qui parmi les hommes aujourd'hui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet? Il n'y a pas de doute qu'ils sont très peu, si ce n'est ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Il y a certains parmi nos frères qui ne différencient pas entre les règles de la religion et les coutumes avec lesquelles il a grandi. Tu vois alors certains parmi eux mettre en pratique certaines coutumes et préférer ces coutumes à la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wal'iyadu billah. On en entend même certains dire, mais lui c'était le prophète. Moi je ne suis pas un prophète. Mon frère, as-tu oublié la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Vous avez en effet dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Chacun d'entre nous doit donc chercher à se réformer. Tu dois savoir que le fait que l'homme aide son épouse, ce n'est pas un signe d'avilissement, ce n'est pas une honte. Au contraire, ceci est un signe de sa piété. Ceci est un signe de sa religiosité. Ceci est un signe de son bon comportement. Et ceci est un signe de son suivi du meilleur des hommes, qui est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Albani rahimahullah ta'ala a dit dans un de ses livres, l'obligation pour la femme d'être au service de son époux ne s'oppose pas au fait qu'il soit recommandé pour l'homme de participer avec elle, s'il est disponible et a le temps pour cela. Ceci fait plutôt partie du bon savoir-vivre entre les époux. Fin de citation. Également, parmi les choses importantes dans lesquelles il convient aux musulmans de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait avec ses épouses. Aïcha radiallahu ta'ala anha nous rapporte qu'un jour elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une sorte de bouillie ou de soupe qu'elle avait préparée. Et elle a alors dit à Saouda de manger de cette bouillie. Donc Saouda, c'est une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se trouvait entre Aïcha et Saouda. Donc Aïcha lui dit mange. Et Saouda, elle refuse de manger. Alors Aïcha radiallahu ta'ala anha lui dit ou tu manges ou je te recouvrirai ton visage avec cela. Et Saouda, elle a refusé de manger. Alors Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a mis sa main dans cette bouillie qu'elle avait préparée et elle en a recouvert le visage de Saouda. Qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il s'est mis à rire. Il s'est mis à rire sallallahu alayhi wa sallam. Et il a pris de la bouillie avec sa main et il l'a mis dans la main de Saouda et il lui a dit recouvre lui aussi son visage. Et il continuait de rire sallallahu alayhi wa sallam. Alors à ce moment-là, Omar radiallahu ta'ala anha est passé et il disait Ya Abdallah. Ya Abdallah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé qu'il souhaitait entrer. Il a leur dit à Aïcha et à Saouda, radiallahu ta'ala anhuma, de se lever et d'aller laver leur visage. On voit donc à travers ce récit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui plaisantait avec ses épouses. Ce n'était pas quelqu'un de rude, avec le cœur dur, mais il jouait avec ses épouses, radiallahu ta'ala anhunna. Aïcha, radiallahu ta'ala anha, elle nous rapporte qu'il a fait la course à deux reprises avec elle. Elle a gagné la première fois et perdu la deuxième. Elle a dit, radiallahu ta'ala anha, j'étais avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lors d'un voyage, alors que j'étais une jeune fille et que je n'étais pas corpulente. Il dit à ses compagnons d'avancer. Ils avancèrent, puis il me dit, viens faire la course. Elle a donc fait la course avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle gagna la course. Elle dit ensuite, radiallahu ta'ala anha, puis après une longue période, je suis sorti avec lui lors d'un voyage. Il dit alors à ses compagnons d'avancer, ils avancèrent. Puis il me dit, viens faire la course. Et elle dit, radiallahu ta'ala anha, j'avais alors oublié ce qui s'était produit auparavant. Et j'étais devenue plus corpulente. Je lui ai dit, comment puis-je faire la course avec toi, au messager d'Allah, alors que je suis dans ces états? Et il lui dit quand même de faire la course avec lui. Elle dit alors, nous fîmes la course et il gagna. Il se mit alors à rire et dit, ceci est ma revanche. Et ce hadith est rapporté par Ahmed ibn Majah et authentifié par Al-Albani rahimahumullah ta'ala. On voit donc ce noble comportement qu'avait notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il était équitable entre ses épouses. Et il supportait ce qui pouvait provenir d'elle comme manquement à cause de la jalousie. Salama, radiallahu ta'ala anha, rapporte qu'un jour, elle a amené de la nourriture dans un de ses plats au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il en mange avec ses compagnons. Radiyallahu ta'ala anhum. C'est alors que Aïcha est venue et a cassé le plat en lançant une pierre sur le plat. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a alors réuni les morceaux du plat et il disait à ses compagnons, mangez, votre mère a fait preuve de jalousie. Mangez, votre mère a fait preuve de jalousie. Il le répéta à deux reprises. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le plat de Aïcha, radiyallahu anha, et il l'a donné à Salama. Et il a donné le plat cassé de Salama à Aïcha. On voit donc à travers ce récit la clémence et l'indulgence du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses épouses. Aujourd'hui, nombreux parmi les hommes s'énervent pour la moindre raison. Il y en a même certains qui vont jusqu'à prononcer le divorce sans aucune cause valable. Imagine-toi, mon frère, un seul instant à la place du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Imagine-toi que ton épouse fasse ce qu'a fait notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Quelle serait ta réaction dans cette situation? Il y a certains hommes aujourd'hui qui iraient jusqu'à frapper leurs épouses, walayadu billah, sans aucune raison légiférée, alors que ceux-ci s'opposent à la voix du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Durant toute sa vie, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais frappé un servant, ni aucune de ses épouses. Aïcha, radiallahu ta'ala anha, a dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais frappé personne de sa main, si ce n'est durant le combat dans le sentier d'Allah, ni une femme, ni un servant. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Où en sommes-nous aujourd'hui de ce comportement? Où en sont ceux qui prétendent suivre la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Où en sommes-nous lorsque l'on entend que des hommes en viennent à frapper leurs épouses sans aucune raison légiférée, wallahu al-musta'an? Ceux-là ont-ils oublié que la femme, elle lui a été confiée comme un dépôt, afin qu'il puisse la protéger et subvenir à ses besoins? Il est rapporté dans un hadith que des femmes venaient se plaindre aux familles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elles venaient se plaindre de leurs époux. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a sermonné les gens et a dit: beaucoup de femmes sont venues se plaindre de leurs époux auprès de la famille de Mohammed. Ceux-là ne sont pas les meilleurs d'entre vous. Ceux-là ne sont pas les meilleurs d'entre vous. Pourquoi? Car ils ont été malfaisants envers leurs épouses. Wallahu al-musta'an. Et parmi les exemples de la bienveillance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, envers ses épouses, il y a le fait que lorsqu'il accomplissait la prière d'Al-Asr, il faisait alors le tour de ses épouses, se rendait auprès de chacune d'elles et s'enquérait de sa situation. Puis lorsque venait la nuit, il allait dans la maison de celle dont venait le tour et lui réservait la nuit. Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit à ce sujet: il ne favorisait aucune d'entre nous sur les autres dans le partage. Il était très rare qu'il ne vienne pas toutes nous voir. Il s'approchait de chacune de ses femmes jusqu'à atteindre celle dont venait le tour et passait la nuit auprès d'elle. On voit à travers cela des exemples du noble comportement de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses épouses, et on voit à travers cela qu'il leur accordait pleinement leurs droits et n'était pas injuste envers elles. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en cela. Nous allons maintenant voir la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec ses enfants. Comment se comportait-il avec les enfants? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plein de compassion envers sa famille et ses proches, et il accordait une grande attention aux enfants, même durant les moments les plus difficiles. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a rapporté que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour la bataille de Badr, il a ordonné à Uthman de rester auprès de son épouse Ruqayya, qui était la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car elle était malade, radiyallahu ta'ala. Il se rend pour cette bataille, la bataille de Badr. Vous connaissez tous le récit de la bataille de Badr, comment les musulmans étaient un faible nombre face aux polythéistes. Malgré cela, il ordonne à Uthman de rester auprès de son épouse Ruqayya. Pourquoi? Car elle était malade, radiyallahu ta'ala. Ainsi était donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de doute que le bien, tout le bien, se trouve dans le suivi de sa voix, sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, j'aimerais attirer l'attention de certaines personnes au sujet de l'éducation des enfants, qui reviennent à certains livres ou à certaines méthodes liées à la psychologie ou autres concernant l'éducation, des ouvrages ou des méthodes souvent faites ou écrites par des non-musulmans et s'opposant à notre noble religion sur de nombreux points. Pourquoi ne reviendrait-on pas aux sources de notre religion, au livre d'Allah, Et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à son explication faite par les gens de science. Wallahi, tout le bien se trouve dans notre religion. Et il n'y a pas un bien sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous l'ait indiqué. Et il n'y a pas un mal sans qu'il ne nous ait averti contre celui-ci. Alors pourquoi se disperser? Pourquoi se disperser et revenir à des méthodes écrites par des gens dont on ignore les objectifs et qui font partie des ennemis de notre religion? Délaissant ainsi la sunna du meilleur des hommes qui est notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était miséricordieux envers ses enfants. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour porta son fils Ibrahim et l'embrassa. Il a même réprimandé un homme à cause de sa dureté et son manque de miséricorde envers les petits. D'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, un homme vit un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser son petit-fils Al-Hassan et lui dit: j'ai 10 enfants et je n'ai jamais embrassé aucun d'entre eux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le regarda alors et lui dit: celui qui n'est pas miséricordieux, on ne sera pas miséricordieux envers lui. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'imam Al-Bukhari rahimahullah nous rapporte d'après Aïcha radiallahu ta'ala anha qu'un jour un bédouin est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: vous embrassez vos enfants et nous ne les embrassons pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors pour le réprimander: et que puis-je faire pour toi si Allah a retiré de ton cœur la miséricorde? Il y a des parents aujourd'hui qui sont durs avec leurs enfants, qui ne font pas preuve de clémence ni de compassion envers leurs enfants. Il y en a même certains qui frappent leurs enfants à la moindre erreur, à la moindre occasion, alors qu'il est souvent possible de passer sur certaines erreurs et d'orienter les enfants en leur expliquant ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Lorsque l'un de ses enfants décéda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleura. On l'interrogea alors à ce sujet et il dit: ceci est une miséricorde qu'Allah a placée dans les cœurs de ses serviteurs et Allah ne fait miséricorde qu'à ses serviteurs miséricordieux. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala. On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de miséricordieux, de clément envers les enfants. Mais cela ne l'empêchait pas de veiller à la bonne éducation des enfants. Et ce, dès leur plus jeune âge. Il leur ordonnait le bien et leur interdisait le mal. Un jour, son petit-fils Al-Hassan, alors qu'il était enfant, il allait manger une date provenant de l'aumône. Il lui a alors interdit cela et il lui a dit: ne sais-tu pas que la famille de Mohammed ne mange pas de l'aumône? Il n'a pas dit: il est petit encore, il n'y a pas besoin de lui interdire. Je lui expliquerai quand il sera grand. Il est encore petit, il ne sait pas, il ne comprend pas. Ou autre chose, comme on l'entend aujourd'hui chez certains parmi les musulmans, qui laissent leurs enfants faire des péchés en se disant qu'ils sont petits, oubliant que ce sur quoi l'enfant grandit, c'est ce sur quoi il risque d'être une fois qu'il sera grand. Wallahu musta'an. C'est pour cela qu'il faut prendre garde à ne pas négliger l'éducation des enfants, et ce, dès leur plus jeune âge, suivant ainsi la voie de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les points liés à ce sujet également, il y a le comportement qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses filles. On a vu l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa fille Ruqayya, lorsqu'il a ordonné à Uthman radiyallahu ta'ala anhu de rester auprès d'elle lorsqu'il est parti à la bataille de Badr. Et Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a rapporté que Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle vint un jour en marchant, et Aïcha radiyallahu ta'ala anha nous dit: et sa démarche était semblable à celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: bienvenue à ma fille. Il la fit ensuite s'asseoir à sa gauche ou à sa droite, puis il lui confia une parole qui la fit pleurer et une autre qui la rendit joyeuse. Aïcha radiallahu ta'ala anha dit: je n'ai jamais vu une joie aussi proche d'une tristesse comme en ce jour. Elle a donc interrogé Fatima au sujet de ce que lui avait dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Fatima lui répondit: il ne me convient pas de dévoiler le secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Aïcha radiallahu ta'ala anha interrogea à nouveau Fatima et elle lui dit: il m'a dit, Jibril alayhi salam m'exposait le Coran une fois chaque année et il me l'a exposé 2 fois cette année. Je ne vois en cela que le fait que mon terme est venu et tu seras certes la première personne de ma maison à me rejoindre. Fatima radiallahu ta'ala anha dit alors: je me suis alors mise à pleurer. Puis il m'a dit, N'agrées-tu pas d'être la maîtresse des femmes du paradis ou des femmes des croyants? J'ai alors ri pour cela. Et ce hadith est rapporté par l'imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Nous avons donc en notre messager sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle à suivre, et on voit à travers cela qu'il ne favorisait pas les garçons au détriment des filles, que ce soit d'un point de vue matériel ou d'un point de vue moral, mais il était équitable entre ses enfants. Et on reparlera de ce sujet, inshallah ta'ala, lors de la conférence de mardi soir sur nos devoirs envers les enfants. Enfin, pour terminer, nous allons voir comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses servants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam traitait ses servants de la meilleure manière, de la même manière que toute autre personne. Il ne le rabaissait pas, il ne le méprisait pas. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, il dit: j'étais au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 10 années. Wallahi, il ne s'est jamais plaint et ne m'a jamais reproché d'avoir fait une chose, ni la manière dont je l'avais faite. Durant 10 ans, il ne s'est jamais plaint de Anas radiyallahu ta'ala anhu. Il ne lui a jamais dit pourquoi as-tu fait ceci comme cela, ou autre parmi les remarques. L'éminent cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit, dans l'explication de ce hadith, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais plaint de lui. Il était à son service durant 10 années, et il ne s'est pas plaint de lui. Il dit ensuite, rahimahullah, si quelqu'un serait au service de l'un d'entre nous, ou lui tiendrait compagnie, ne serait-ce qu'une semaine, il se plaindra à coup sûr. Mais cet homme fut au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 10 années. Malgré cela, il ne s'est jamais plaint de lui. Voyez le comportement de nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam. C'était un comportement éminent. Sa bienveillance sallallahu alayhi wa sallam, elle se dirigeait même vers ces hommes qui étaient à son service radiyallahu ta'ala anhum. Et il avait avec eux le meilleur des comportements. Enfin, pour conclure, j'aimerais me rappeler à moi-même, ainsi qu'à l'ensemble des auditeurs, qu'il n'y a pas de doute que tout le bien se trouve dans le fait de nous accrocher au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous convient donc de nous accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière véridique et de nous remettre en question, de comparer nos paroles et nos actes à la voie et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans tous les domaines de notre vie. On a vu ce soir la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la fondation de sa maison, le comportement qu'il avait chez lui, le comportement qu'il avait avec ses épouses, le comportement qu'il avait avec ses enfants, avec ses servants. Chacun d'entre nous doit se remettre en question, faire un bilan avec soi-même, comparer nos œuvres, comparer nos paroles aux œuvres et aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui parmi nous qui recherche réellement la demeure de l'au-delà, il n'a qu'à s'accrocher à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les affaires de sa vie. Et on a donc pris connaissance de certaines choses concernant sa voie dans son foyer. Nous n'avons plus qu'à mettre ces choses en pratique. Quant au fait de prétendre suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que l'on s'oppose du matin au soir à sa sunna et qu'on ne se conforme pas à sa voie dans l'ensemble des affaires, alors ceci est en réalité un amour mensonger et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de purifier nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et il a dit subhanahu wa ta'ala: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas demandé de juger dans leurs disputes et qu'ils n'éprouveront nulle angoisse, nulle gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous le suivi de la voie de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nous placer parmi ses suiveurs véridiques. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté et de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.